sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous. De nouvelles annonces pour les agriculteurs. Matignon présente aujourd'hui d'autres mesures pour le secteur alors que Gabriel Attal est attendu dans la Manche ce matin pour les détailler. Elle s'ajoute aux 62 engagements déjà présentés ces dernières semaines. On retrouve notamment la présentation prévue début mai de la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides qui avait été suspendu en pleine crise agricole. De nouvelles aides pour la trésorerie des exploitations ou encore l'accélération de son projet de stockage d'eau ou d'irrigation. Un voyage exceptionnel d'une dizaine de jours, le Belém quitte aujourd'hui la Grèce, direction la France, avec à son bord la flamme olympique. Elle a été officiellement remise aux organisateurs français lors d'une cérémonie hier à Athènes. La flamme est attendue le 8 mai prochain à Marseille et c'est Florent Manaudou qui sera le premier à la porter dans l'Hexagone. La tension retombe un peu à Sciences Po Paris. La direction a annoncé hier dans la soirée un accord avec les manifestants pro-palestiniens qui bloquaient le site. Un débat avec toutes les communautés de Sciences Po est prévu dans les prochains jours. L'école a aussi décidé de suspendre les sanctions disciplinaires engagées contre les étudiants qui ont manifesté. Cette bonne nouvelle, de l'autre côté de la Manche, le roi Charles III, atteint d'un cancer, va reprendre ses activités publiques mardi. Les médecins du roi jugent très encourageants les progrès de son état de santé. En début de semaine prochaine, donc, le souverain, accompagné de son épouse Camilla, se rendra dans un centre de lutte contre le cancer. Le rugby, le vainqueur de ce match, remportera cette édition du tournoi des Six Nations féminins et fera le grand chelem. Le 15 de France accueille l'Angleterre à 17h15 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Les tricolores qui restent sur 12 défaites de suite face aux Anglaises. Et puis, il y a du top 14 aussi ce week-end. La 22e journée se choque cet après-midi à 15h. Le stade Toulouse deuxième accueil, le Racing 92 troisième. Cinq autres rencontres à suivre également aujourd'hui, avec notamment Clermont qui reçoit le leader, le Stade Français, ce soir à 21h05. Bonne journée à tous.
La météo dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le temps est pluvieux sur la totalité du département. Ce matin, on note entre 12 et 14 degrés. Cet après-midi, il fera jusqu'à 18 degrés à Lunel. Demain dimanche, pluie et orage seront toujours au rendez-vous dans l'Hérault avec des températures maximales de 16 degrés à Montpellier. Je vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Vendargues et Courmont-Terral, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Conviction, engagement et valeurs les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui découvrir les deux femmes du fil rouge de Midi Libre. Je veux dire Colline Herliman. Bonjour Colline.
Bonjour Perla.
Et sa filleule, donc Judith Castro.
Bonjour Perla.
Bonjour. Bienvenue à toutes les deux et on va d'abord un peu découvrir votre parcours. Alors Colline Herliman, sans prendre toute l'émission, parce que votre parcours est très riche, est-ce que vous pouvez nous donner quelques étapes de ce beau parcours?
Merci Perla. Alors quelques étapes, je vais essayer d'être rapide. La carrière est longue quand même. En tout cas, j'ai créé assez rapidement deux entreprises après mes études, 3-4 années après mes études.
Très vite.
Une première à Paris et ensuite, en descendant dans cette belle région, une à Montpellier sur les nouvelles technologies de l'information. Et par la suite, je suis rentrée au service de l'État sur la fonction de déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité pour le ministère des droits des femmes et auprès du préfet de région.
Donc ici, à Montpellier, dans ce cas-là.
Voilà pour l'ancienne région Languedoc-Roussillon.
Alors, Colline Herlimann, déléguée aux droits des femmes, c'est important. C'était aussi un peu le début de ce militantisme pour le droit des femmes. Ça a été compliqué d'imposer quelque chose dans le service public là-dessus ?
Écoutez, ça existe, ça a le mérite d'exister dans le service public, sachant que bon, dans les réunions, quand j'ai démarré, j'étais la seule femme dans les comités avec les préfets, les chargés de mission.
Comme il se doit,
comme il
se
doit, la seule femme un peu partout, parce que j'avais en charge cette mission et qui s'est quand même étoffée et qui a quand même pris de plus en plus d'écoute au fur et à mesure des années, heureusement.
Alors avec beaucoup d'actions quand même, hein, de mise en place d'actions, de projets visibles, vous êtes passé du mal nécessaire, le mal sans eux bien sûr, pour nos auditeurs, à quelque chose de constructif.
Voilà, exactement. Voilà. Alors, et les politiques publiques ont commencé aussi à s'étoffer. Voilà. Pendant cette période.
Absolument, donc il y a une conscience qui est montée. Alors actuellement, est-ce que vous trouvez, vous n'êtes plus en charge
non.
de cette question-là, mais quand même, je suis sûre que vous avez un regard un peu aiguisé sur ce sujet. Est-ce qu'on avance là-dessus ?
Bah, on avance pas assez vite, hein. Je crois qu'il y a encore eu un rapport de l'ONU là qui est sorti ces derniers jours, qui dit qu'on en a encore jusqu'à une centaine d'années avant d'arriver à l'égalité parfaite. C'est surtout la mise en place qui est difficile, quoi.
Oui.
Les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, il y a encore du travail à faire. Et puis il faut rester vigilant. On le voit dans d'autres pays moins chanceux qu'en France, où il y a encore plus de difficultés, que les retours en arrière sont vite arrivés.
Donc, le début a été compliqué.
Oui.
Là, on n'est pas prêt d'inverser la vapeur encore avec plus de femmes que d'hommes ou autant de femmes que d'hommes dans les hautes fonctions, je dirais. Il y a un plafond de verre. À votre avis, qu'est-ce qui est dû à l'autocensure ? Qu'est-ce qui est dû à une réalité objective de difficulté ?
Je crois qu'il y a des deux, mais il y a effectivement aussi de l'autocensure de la part des femmes qui se posent elles-mêmes des limites, qui se posent elles-mêmes des limites par rapport à la vie familiale, par rapport à ce qu'on leur a appris ou dit, ou des réflexions qui sont encore là, et elles ne s'accordent pas toujours assez de liberté.
Oui, c'est ça.
Alors qu'elles peuvent, et que quand on voit celles qui décident d'avancer, elles y arrivent, à mener leur vie de façon intéressante et passionnante.
Sans qu'on récane en disant c'est une promotion canapé, comme c'était à l'époque.
Comme c'était à l'époque, même si ça arrive encore, malheureusement, je l'ai encore entendu de la part d'une jeune femme qui a brisé un peu, qui a vraiment fait jouer sa liberté et sa conscience professionnelle pour avancer, et à qui encore a entendu ce type d'allusion.
Donc les stéréotypes, on l'a dans
Elles ont la dent dure, donc c'est tous les jours qu'il faut que les femmes en aient conscience et que les hommes en aient encore plus conscience.
Bien sûr. Alors, vous avez choisi comme filleule Judith Castro, qu'on va découvrir à présent. Judith, un petit quelques mots sur votre parcours. Vous êtes actuellement à Cimbolone, vous êtes membre fondateur,
oui,
avec une autre associée.
Oui.
Alors, Cimbolone, c'est de la formation un peu particulière quand même.
Oui, tout à fait, Perla. Cimbolone, c'est un organisme de formation qui est engagé auprès des femmes. Et donc, nous formons les femmes en entreprise à dépasser leurs freins, dont Colline vient si justement de parler, à oser demander, à sortir du conditionnement social dans lequel nous sommes pour la plupart enfermés. Et vous posiez la question de savoir si les empêchements sont liés aux stéréotypes et peut-être aux barrières que l'on met aux femmes ou aux freins qu'elles se mettent elles-mêmes. Eh bien, nous, notre idée, c'est les politiques gouvernementales sont là pour inciter les entreprises à encourager les femmes à progresser. Nous, nous sommes là pour encourager les femmes en les incitant à passer à l'action, à oser, à se dépasser et à oser demander, à oser se positionner sur des postes en promotion interne, par exemple.
Donc c'est important, il faut dire que vous avez le parcours qu'il faut. Vous avez fait un MBA à Delaware aux États-Unis.
Oui.
Et avec une expertise RH. Vous
êtes... Oui. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les ressources humaines et à partir des années 2012 à peu près, j'ai commencé à accompagner des entreprises donc sur la région Languedoc-Roussillon sur le sujet de l'égalité homme-femme.
Oui.
Et pour moi, avant de faire ce travail, j'étais probablement très naïve, je n'avais pas vraiment conscience qu'il y avait encore
des problèmes. Pour vous, il n'y avait pas de problème.
Pour moi, il n'y avait pas de problème. Moi, je venais d'une famille où je me sentais l'égale de mon frère. J'avais fait les études que je voulais. J'étais indépendante financièrement dès que j'ai terminé mes études, etc. Et je n'avais pas conscience qu'en fait, et je le dis, j'étais bien naïve, qu'il y avait encore autant de problèmes.
Ouais.
Et donc, en commençant à travailler sur ce sujet, accompagner les entreprises sur la rédaction de leurs accords d'entreprise sur le sujet de l'égalité, je me suis dit, il faudrait quand même que je me fasse une culture sur le sujet. Et j'ai commencé à lire des ouvrages, à lire des articles qui étaient écrits sur le sujet. Et je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu!
Quel chantier!
Mais il y a encore tellement, tellement de boulot. Ouais. Et j'étais tellement à côté de la plaque en pensant que tous ces problèmes-là étaient réglés.
Je suppose que votre passage à l'APEC vous a bien aidé à faire une analyse un peu.
Exactement, puisque cette expérience, je l'ai eue à l'APEC, où j'accompagnais, donc ma mission de consultante était d'accompagner les entreprises du Languedoc-Roussillon, entre autres sur ces sujets d'égalité.
D'accord.
Et j'ai rencontré donc des patrons, patronnes, notamment de PME, qui pensaient aussi qu'il n'y avait pas de problème d'égalité dans leur entreprise. Et donc c'était aussi pour eux et elles une prise de conscience quand on regardait les chiffres, de voir qu'en fait, il y avait des inégalités.
Alors, le temps court vite, c'est un peu surprenant de dire une formation dans ce domaine. Donc, on donne quoi? Des clés, des codes, des études de cas pour oser dire. Comment ça se passe?
Alors, on travaille sur la connaissance de soi, on travaille sur la confiance en soi, notamment. Ça, ce
d'abord.
Sont vraiment on démarre par ça. Et chaque module que l'on propose de formation est associé à des challenges. Et en fait, on invite les femmes à sortir de leur zone de confort, à réaliser des challenges, elles marquent des points, elles se dépassent, elles se filment, elles sont en promotion, elles partagent ça avec leur promotion. Donc la plateforme s'appelle le BAM Lab, et au BAM Lab, on a des challenges faciles, on a des challenges moyens, et on a des BAM Challenges. Et les BAM Challenges, c'est vraiment des challenges, et Colline pourra peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'elle est en train de tester les BAM Challenges.
C'est fort, c'est important.
Sont vraiment des challenges qui amènent à se dépasser.
Bon, eh bien, écoutez, tout ça est tout à fait intéressant et je trouve ça passionnant qu'on prenne au niveau comportemental et réassurance de soi justement ces problématiques d'égalité homme-femme et d'avoir le culot de revendiquer ce qu'on fait et comment on le fait. On va faire une petite pause musicale et nous verrons ensuite toutes les deux ce qui vous unit. Aviva.
Time.
auditrices et auditeurs, nous reprenons notre entretien avec Colline Herliman, et qui est la marraine de Judith Castro, deux femmes engagées dans la cause des femmes et du positionnement juste des femmes dans la société. Colline, comment, pourquoi avoir choisi justement Judith Castro comme filleule? Qu'est-ce qui vous a, au niveau de ses valeurs, au niveau de son comportement, qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir une filleule comme ça?
Ben, avec Judith, on s'est déjà rencontrés quand j'étais déléguée et j'avais créé un réseau pour l'égalité professionnelle qui s'appelait l'Égali. Donc ça a été l'occasion de se rencontrer, de croiser justement nos valeurs. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce qu'a fait Judith, c'est la façon dont elle s'est emparée de cette question d'égalité professionnelle, comme elle l'a dit au début, y venant avec une certaine naïveté et vraiment d'y avoir mis toute sa passion. Et puis là maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette nouvelle plateforme qu'elle est en train de créer au niveau de Simbalon, je m'y intéresse toujours. On a toujours l'intention de collaborer d'une façon ou d'une autre ensemble. Je teste aussi ce qu'elle est en train de faire parce que je trouve ça passionnant.
Une vraie empathie pour ce sujet et pour
la façon dont elle le porte. Ouais.
Alors Judith Castro, passer de la théorie de l'égalité justement entre les sexes à une pratique concrète, individualisée, je suppose. Oui. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est cette valeur de dire on doit y arriver avec une méthode et pas juste des bons sentiments ou des principes. C'est le MBA, là, qui est derrière.
Alors, avec mon associée Lucille, qui est une amie de plus de 30 ans, et elle est coach professionnelle, on s'est rendu compte qu'on accompagnait, donc elle en coaching et moi en formation, des femmes incroyables, certaines avec des parcours vraiment éblouissants. Et on s'est rendu compte que même si elles manageaient 150 personnes et qu'elles étaient directrices de je ne sais pas quoi...
Ça n'est jamais assez.
Exactement. Et donc, ou ce n'était pas assez, ou certaines et se sentaient même dans l'imposture, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Et on s'est dit, waouh, c'est quand même dingue que des femmes arrivées à ce niveau, ben elles essayent... toujours encore plus, et puis certaines ne se sentent même pas légitimes d'être là.
C'est ça, donc il faut en faire toujours plus pour légitimer sa position.
Exactement. Exactement. Donc,
je crois que c'est là où on se retrouve aussi avec Judith, parce que on essaye de valoriser les femmes. On continue, c'est quelque part... presque comme une mission de montrer. Moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je fais aussi des interviews à Radio Aviva, notamment.
Oui. On a la chance d'avoir Colline comme intervieweuse et chroniqueuse.
Mais également à l'extérieur, avec tout type de femmes, pas forcément connues, mais d'essayer d'écouter, de les faire parler de leur vie. Et ça les remet en valeur, en beauté, en transmission de choses incroyables, souvent.
Vous êtes en train de nous dire, toutes les deux, que ce qui vous rapproche, c'est le fait de faire que les gens se révèlent et deviennent vraiment, ils prennent conscience de ce qu'ils sont, de leurs valeurs, de leurs qualités.
Oui.
C'est ça, ce que vous partagez, essentiellement.
Il y a ça, on a cette envie de transmettre, les deux. Ça, c'est pour nous, c'est fondamental.
De transmettre et que les autres transmettent aussi.
Oui.
Et puis, je crois qu'on a, on en a parlé un jour, on a un côté, on a toujours connu quand même une certaine liberté.
Oui,
ou envie d'une certaine liberté, et on est là aussi pour transmettre aux femmes de franchir certaines limites
pour être libre,
pour être libre.
Redonner un degré de liberté
c'est
important, ça.
Oui.
Qu'est-ce qui gêne cette liberté, Judith?
Il y a beaucoup de freins que se mettent les femmes elles-mêmes, on en parlait tout à l'heure, qui sont liés à l'éducation, aux stéréotypes de genre, aux médias aussi, aux publicités qui enferment les femmes dans certains rôles, etc. Il y a une étude, par exemple, qui a analysé les manuels scolaires et qui a regardé comment étaient représentées les femmes dans les manuels scolaires. Mais pour les petites filles, c'est une catastrophe. parce qu'en fait, elles sont encore représentées au second plan derrière les hommes.
Avec le bébé ou avec la machine à laver.
Exactement, exactement.
Et donc, ou à la cuisine.
La petite fille à se projeter sur des métiers de cadre supérieur, quand à l'école déjà, dans les livres, ben, la femme elle est positionnée derrière l'homme.
Ouais.
C'est
alors
compliqué.
On sait par exemple que même les excellentes élèves hésitent à faire des carrières d'ingénieur,
des
études d'ingénieurat.
Complètement.
Et il y a une lacune énorme et on travaille nous ici avec une association d'ingénieurs pour justement passer le message dans les lycées.
Oui.
Pour ne pas que cette orientation se fasse par défaut.
Et chez les cadres, les femmes cadres ne représentent que 37% des cadres, hein, et alors qu'elles sont plus diplômés de l'enseignement supérieur que les jeunes garçons.
Absolument. Mmh. Et on sait quel est le rôle de la confiance en soi dans le management d'une équipe. Hein.
Complètement. Et pour rebondir là-dessus et votre question tout à l'heure par rapport à la confiance en soi, elle se construit dans le passage à l'action.
Ouais.
Et en fait, plus on va passer à l'action dans notamment nous, les challenges qu'on propose dans nos formations, plus on va renforcer sa confiance en soi et plus on va se sentir prête à passer à l'action dans son travail.
Le fait de dire c'est normal que j'ai cette position parce que c'est moi, c'est plus masculin que féminin quand même. Hein. Je vais faire du sexisme à l'envers, je vais me faire insulter.
Mais c'est vrai qu'aussi avec les réseaux sociaux maintenant, je trouve que des fois les stéréotypes sont renforcés.
Oui, oui bien sûr, parce qu'on est entre soi hein, dans les algorithmes.
Vraiment, on est entre soi. Et là, il y a un danger, effectivement, d'enfermer. Fermé sur les jeunes aussi, sur des modèles. Moi qui interviewe par exemple des personnes de plus de 80 ans, notamment, j'en ai interviewé un certain nombre et de façon assez intime et longue, je me suis aperçue que certaines femmes qui ont traversé déjà un pan de l'histoire ont connu certains chemins de liberté qui m'épatent.
Oui, bien sûr. Ça,
peut-être parce qu'il y avait aussi moins de modèles très rapprochés, comme on nous met la pression aujourd'hui par les médias.
Des modèles à imiter
Par exemple, dans la télé-réalité, quand on regarde la façon de parler, la façon d'être...
On va mettre des guillemets à modèle, hein, quand même. Hein.
Comment?
On va mettre des guillemets à modèle, vous permettez.
Non, mais des modèles à ne pas imiter.
Ouf, je respire.
Je veux dire des stéréotypes.
Bien sûr. Alors, dans vos rêves là, les plus fous, toutes les deux, Colleen Herliman et Judith Castro, vous disiez que vous avez envie de transmettre, vous avez envie que les gens que vous formez, que vous approchez aussi envie de transmettre. Alors, votre rêve, là, c'est quoi? C'est que cette chaîne, elle se fasse ad vitam aeternam. Qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce qui va être un bon jalon pour vous, Judith?
Alors, j'ai une fille qui a 19 ans.
Oui.
Il y a quelques années, elle devait avoir 12-13 ans. Elle rentre dans la cuisine et elle me dit « Ah, maman, que c'est pas vrai qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme est moins payée.
» Et là, c'est la prise de conscience. Clac.
Et là, je me suis dit « Waouh !» Ben, je vais être obligée de lui dire que si ça arrive.
Ouais.
Donc je lui ai dit si ça arrive. Elle a eu les larmes aux yeux et elle m'a dit non maman, c'est pas possible, dis-moi que c'est pas vrai.
Magnifique. Donc elle vous a mandaté, missionné symboliquement vers tout cela.
Exactement.
Voilà, c'est important.
Exactement.
C'est très important. Et pour vous, Colleen, alors quel a été l'élément déclenchant, le fait d'arriver à la délégation, le fait de vouloir transmettre comme ça?
Je crois que j'ai toujours eu envie de transmettre.
D'accord.
Je me suis toujours formée pour transmettre. Donc ça, c'est depuis très jeune.
Oui.
Donc ça a toujours été ça. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie dans mes interviews de transmettre en ralentissant aussi un peu le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication va vite. On communique beaucoup, mais on est aussi dans des pays...
On communique beaucoup superficiellement.
Superficiellement, on est souvent... Les familles sont dans des pays, les enfants aux quatre coins du monde, etc. Et j'ai envie de rétablir un peu de cette communication proche et intime.
Donc,
de cette transmission, justement, de génération en génération.
Qu'on sache un peu qui ont été d'où on vient et
d'où on vient
pour savoir
me paraît
où on
très
va.
Important
voilà. Pour aller, savoir d'où on va
pour avancer.
Merci Colline Herliman, vous êtes la marraine de Judith Castro, que je remercie également pour cet échange très ouvert et dynamique. Je suis sûre que vous allez atteindre vos objectifs et nous, on vous a découvert déjà dans les colonnes du Midi Libre et à présent sur nos podcasts. À bientôt sur cette antenne pour vos prochaines réalisations.
Merci Perla.
Vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre. Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception.
Aviva, bon week-end!
Bon week-end!
Plus, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue sur Radio Aviva. Bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Renaud Calva. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Jacou, vice-président du conseil départemental, premier vice-président de la métropole de Montpellier. On a beaucoup de sujets à évoquer ce soir. Il y a quelques jours, c'était la rentrée scolaire qui s'est faite au collège Arthur Rimbaud, Saint Samara, qui a été agressé il y a près de trois semaines, violentée très fortement, une actualité qui a évidemment suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions à Montpellier et au plan national. Comment, Renaud Calva, lutter contre cette hyper-violence des adolescents, des jeunes? Des missions ont été conduites, le rectorat a pris le sujet en main, mais comment vous, côté métropole, côté ville de Montpellier, on peut solutionner cela?
Et aussi côté département, parce que vous savez, nous avons la compétence collège au sein du conseil départemental, et je veux vraiment avoir une pensée pour Samara, sa maman, sa famille. C'est extrêmement difficile ce qu'elle a subi, ce qu'elle subit encore. Il y a deux choses qui sont différentes. Il y a la violence extrême qu'a subie Samara, totalement inacceptable, qu'il faut condamner. Il faut que la justice soit extrêmement ferme et que cela reste vraiment de l'ordre de l'exception, cette violence extrême. Et puis vous avez, à côté de cette violence extrême, vous avez aussi tout ce qui peut se passer au quotidien, le harcèlement, qui est peut-être moins prégnant, on n'en parle pas sur les ondes des radios ou dans les médias, mais qui aussi rend la vie beaucoup plus difficile des collégiens et des collégiennes.
Quel type de harcèlement?
Ça peut être de harcèlement dans les toilettes, le harcèlement sur l'orientation de genre, le harcèlement sur le physique, le harcèlement sur les capacités sportives, ça peut être les injures que l'on reçoit, le fait d'être éloigné de ses camarades. Et cela, nous menons de nombreuses actions avec le rectorat, bien sûr, mais aussi dans les collèges de l'Hérault. On ne construit pas un collège aujourd'hui comme on le construisait il y a 40 ou 50 ans. On sait maintenant le lien qui existe entre le bâti et l'usage que l'on fait de ce bâti. Vous savez, pendant très longtemps, une cour de récréation sur un collège, c'était quoi? C'était une grande dalle de béton et vous aviez 20 personnes qui jouaient au foot et qui excluaient 400 autres qui étaient autour. Donc quand on construit des nouveaux collèges, comme ce sera le futur collège de Juvignac, comme Port-Marianne, ou des travaux comme à Maraussan, à Béziers dans un an, on réfléchit à une conception différente du collège. On crée des recoins, des forums, des agora, de l'urbanisme, pour permettre aux enfants, aux adolescents de se parler, pas uniquement de se défouler. C'est ce qu'on faisait avant, on disait « Ah, ils sont à la cour de récréation, ils se défoulent ». Non, on est dans une cour de récréation, on échange, on parle.
Mais cette perception différente n'empêchera pas la violence, n'empêchera pas le harcèlement sur certains adolescents.
Alors, détrompez-vous, il y a de nombreuses études qui montrent que plus les élèves se parlent, plus ils communiquent entre eux, moins ils sont agressifs les uns vis-à-vis des autres. On a des expériences, on a des études qui le montrent. Cela ne réglera pas les phénomènes d'ultra-violence. C'est une autre problématique qui est liée, on en a parlé, aux réseaux sociaux, problématiques familiales, mais il faut aborder les deux formes de violence et de harcèlement. Si vous n'en faites qu'un seul parce que vous êtes parce que les médias en ce moment voient ce qui s'est passé dans deux collèges.
Et puis il y a des cas nombreux ces dernières semaines.
Mais ces cas sont nombreux et ils ne doivent pas cacher tout le travail qu'on doit mener sur les milliers de cas de harcèlement qui peuvent provoquer des drames humains, des problématiques dans la poursuite des études. Donc on a, je sais que ça peut vous paraître peut-être insignifiant, mais la question du sanitaire, ou comment est-ce qu'on peut se sentir en sûreté quand on va faire ses besoins physiologiques, alors que pendant des années, c'était un endroit où on se sentait en insécurité. Tout cela, on y travaille, on modifie les bâtiments, on met en place aussi des accompagnements, des êtres humains, des AED, ce qu'on appelle des AED, avec le rectorat. On ne peut pas dire que c'est nouveau. Je vais vous le dire, moi j'ai été un collégien harcelé. Quand j'étais au collège Castelnau, quand j'avais 13 ou 14 ans, il y a quelques années de ça, presque 40 ans, j'étais un collégien harcelé. Et quand j'allais voir un adulte, moi, jeune garçon de 14 ans, 13 ans, harcelé, quand j'allais voir un adulte, on me disait « T'es un gars, t'es un homme, t'es un garçon, défends-toi ». C'était presque initiatique, le harcèlement. Aujourd'hui, vous n'avez plus un seul adulte qui va considérer que cela est normal.
Mais vous qui avez été harcelé, est-ce que vous avez eu l'oreille attentive du personnel éducatif, d'enseignants? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sorti?
Il y a 35 ans, non. Ça a changé. Aujourd'hui, quand même, tout le monde trouve absolument scandaleux qu'un jeune adolescent ou une jeune adolescente soit harcelée dans son collège. Il y a 30 ou 40 ans, ça n'était pas le cas. C'était même presque, ça faisait partie de l'adolescence. Et on nous disait, défends-toi. Tu seras un homme, mon fils, si. Tout le monde connaît le poème de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils, si. Donc tu dois te défendre. Aujourd'hui, on considère que c'est du rôle de la communauté, de la société, de préserver et de protéger les jeunes adolescents. On a peut-être oublié, mais c'est un pas énorme qui a été fait. Alors, est-ce qu'on réussit parfaitement? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut continuer encore et toujours à œuvrer? Oui, sinon on n'a plus besoin d'avoir des élus ou des adultes. Mais cette prise de conscience, elle est là, elle est réelle. Et des actions sont menées. Et ça, je veux remercier aussi les professeurs, les agents du département, les agents du rectorat qui sont dans les collèges et qui font vraiment de leur mieux.
On pointe du doigt très souvent les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur la vie des adolescents et donc avec des conséquences sur la violence. Est-ce que le département a pris ce sujet aussi en main? Est-ce que des initiatives sont conduites?
Bien sûr, nous avons ce qu'on appelle des AET, donc des actions éducatives territoriales, où on accompagne les équipes pédagogiques pour donner des grilles de lecture aux adolescents du réseau social, de la formation, d'où vient la source. Vous parlez de la violence, mais les réseaux sociaux et les jeunes, la question de la désinformation est primordiale. Aujourd'hui, quand moi j'avais 14 ou 15 ans, je savais que j'allais sur l'Universalis, que je voulais avoir une information, j'avais une encyclopédie.
Elle était vérifiée.
Et elle était vérifiée. Mmh. Aujourd'hui, vous tapez n'importe quoi sur Internet et l'information n'est pas sûre, n'est pas vérifié, n'est pas juste. À vous, ton journaliste, à qui je vais le dire, la difficulté aussi. Donc, nous, au conseil départemental, on accompagne les enseignants, on a des modules de formation auprès des adolescents, à la fois sur la question de la lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement, mais aussi, ça c'est vraiment au cœur de notre travail avec les profs, sur comment je vérifie que ma source est fiable, comment je fais que cette information elle est vérifiée, comment je construis mon esprit critique, comment je dis bah tiens, j'ai une information, je vais aller la vérifier sur un autre support. C'est au cœur de ce que nous devons faire pour accompagner nos jeunes aujourd'hui.
On évoquait en début d'interview Samara, la maman de Samara. Est-ce que vous avez eu des nouvelles récemment? Et comment la rassurer? Comment lui permettre de revenir dans les meilleures conditions?
Alors moi, je n'ai pas eu personnellement de nouvelles puisque c'est vraiment le maire et puis le rectorat, puisque nous, au conseil départemental, nous gérons les bâtiments, les collèges, mais cette partie humaine est gérée par Madame la rectrice, qui, je crois, est en contact régulier avec la famille. Je peux comprendre qu'il faille du temps à Samara pour rejoindre son établissement. Tout doit être mis en œuvre pour qu'elle suive sa scolarité. Ça, c'est évident, mais c'est fait. Je sais que le rectorat et la DASEN le feront. Peut-être qu'il faut aussi que justice se fasse auprès de celles et ceux, des autres adolescents qui l'ont harcelée et qui l'ont agressée, pour qu'elle se sente aussi en sûreté. Dans les collèges, si vous me permettez d'en dire quelques mots, nous avons, nous, un plan de mise en sûreté de chaque établissement scolaire, de chaque collège de l'Hérault, dans les 83 collèges de l'Hérault. L'agression de Samara ne s'est pas déroulée dans le collège.
Absolument.
Mais elle aurait pu se dérouler dans le collège. Là, elle ne s'est pas déroulée dans le collège. Mais pour chaque collège, on a un plan de mise en sûreté avec des caméras. On installe des caméras dans les halls. On installe des doubles sas. Vous savez que nous avons de plus en plus de difficultés aujourd'hui, non pas entre adolescents, mais avec des adultes. Quand deux adolescents peuvent se disputer dans une cour de récréation, plus en plus, on a des parents, des cousins, des oncles, des tantes, des frères qui viennent le lendemain en découdre et qui menacent les agents du département ou les agents.
Il faut aller plus loin en installant des portiques, certains évidemment. Ils sont déjà installés dans la plupart des collèges.
Dans chaque collège, il y a ce qu'on appelle un plan de mise en sûreté. Mm-hmm. On peut rentrer dans le détail, qui détermine et qui est élaboré en partenariat avec les forces de gendarmerie ou les forces de police, le conseil départemental et le rectorat. Et donc, on détermine, j'étais il y a quelques jours, j'étais à l'ODEV, voilà, avec monsieur le principal, il y a quelques jours, pour déterminer comment on pouvait améliorer la sûreté à l'entrée du collège. Un papa s'était mal comporté quelques jours plus tôt avec un agent de la loge, avec une femme qui fait l'accueil des enfants. Et donc, on a identifié les pistes d'amélioration. Donc, on a installé une caméra, le double sas existe déjà, améliorer l'entrée. Ce sont des petits détails. Mais ça, heureusement que ça m'arrête, et c'est un drame affreux, mais heureusement que ça n'est pas tous les jours. En revanche, ces petites violences au quotidien qui pourrissent la vie des adolescents et des agents dans le collège, là, c'est quotidien. Et donc, on met en œuvre ces actions. Caméra, bouton poussoir pour l'alarme, par exemple, que ce soit facile d'accès. Et on a identifié ces actions à faire dans les 83 collèges de l'Hérault.
Un débat s'est imposé dans la société depuis quelques jours sur le couvre-feu pour les adolescents, les moins de 13 ans. On sait que la ville de Béziers l'a installé depuis le 22 avril. La ville de Nice va l'installer à partir de début mai. Vous êtes maire de Jacou. Est-ce que, en tant que maire, vous estimez qu'il faut appliquer cette règle du couvre-feu?
Alors, je n'ai pas de problème moral sur le principe du couvre-feu lorsqu'il est utilisé dans un cas précis de violence précise. Dire « il ne se passe rien dans ma commune et je mets en œuvre un couvre-feu », c'est même décrédibiliser le rôle du couvre-feu. Le couvre-feu est utilisé en cas de guerre civile, de danger imminent, de problème majeur. Est-ce que c'est le cas à Nice? Je ne sais pas. Si peut-être monsieur le maire de Nice a estimé qu'il fallait le mettre, peut-être que c'est la guérilla à Nice tous les soirs, je n'en sais rien. Je pense que je suis un peu ironique, vous l'avez compris. Mais je n'ai pas de problème avec le principe même d'un couvre-feu pour les enfants de 13 ans. La place d'un enfant de 13 ans n'est pas d'être dans la rue à 1h du matin. En revanche, pour que ce soit la puissance, l'autorité, la puissance publique, le maire ou le conseil municipal qui le décrète, il faut que la situation le justifie. Donc on soit dans un danger ou un moment de violence qui le justifie. Sinon, le jour où la violence, c'est comme Pierre qui crie au loup, quoi. Le jour où là, vraiment, on sera dans une situation difficile, on n'aura plus d'armes.
Mais on peut considérer que c'est un des outils pour lutter contre la délinquance juvénile.
Mais bien évidemment, lorsqu'il y a eu des émeutes ou des moments extrêmement difficiles, ne serait-ce que pour protéger les adolescents, moi je fais partie de ces élus qui continuent à défendre l'ordonnance de 45, vous voyez, qui dit que le mineur peut être coupable, mais lorsqu'il est coupable, il est aussi victime d'un manque éducatif de la part de ses parents, de la communauté, etc. Donc c'est évident que si on considère que le mineur est victime, il faut aussi le protéger. Donc bien évidemment, un enfant de 13 ans, si vous avez des émeutes le soir dans une commune, des poubelles qui brûlent, c'est absolument inadmissible qu'un mineur de 13 ans soit dans la rue, même si le code pénal prévoit déjà des sanctions si le mineur de 13 ans brûle une poubelle. Donc est-ce qu'il faut aller jusqu'aux parents? Mais bien évidemment, enfin, comment est-ce qu'on pourrait considérer que les parents n'ont pas de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants? Maintenant, on sait aussi que vous pouvez avoir des parents dépassés pour lesquels c'est difficile, et donc c'est de la dentelle qu'on doit faire là-dessus. On ne peut pas se permettre de la démagogie sur des questions aussi difficiles. Donc vous pouvez avoir des parents qui n'en ont rien à faire et des parents qui sont dépassés, et on ne les traite pas de la même façon, on ne les accompagne pas ou on ne les sanctionne pas de la même façon.
Estimez-vous qu'on est dans la démagogie aujourd'hui dans notre pays sur ces questions-là? Tout le monde y va de sa propre mesure.
Je trouve qu'on est dans la démagogie dans notre pays sur tous les sujets. Je suis quelqu'un qui aime la nuance, qui aime la modération, vous le savez, et qui pense que sur ces sujets-là, comme sur tous les autres sujets, on a besoin de se poser, de nuances, et de déterminer les actions justes à mener après une analyse juste. Donc j'ai en horreur toute forme de démagogie, quelle qu'elle soit.
Sans nier évidemment les problèmes qui sont ceux que nous observons en ce moment.
Mais c'est encore mieux que sans les nier. Le plus difficile, le plus grave même, c'est d'être dans la démagogie, de ne pas proposer de solutions qui fonctionnent. Notre rôle à nous, élus, choisis tous les 6 ans, moi en tant que maire, par les concitoyens, c'est pas uniquement de dire, c'est de faire. Si je suis sur un plateau de télé ou de radio, et je suis très heureux d'être avec vous uniquement pour hurler et dire, et qu'au final je ne sers à rien, je reste à la maison, quoi. Donc je préfère être en dehors de toute forme de démagogie, analyser un problème, préconiser des solutions efficaces, les analyser, savoir si on doit faire mieux la fois suivante. Mais en dehors de toute instrumentalisation politique, quelle qu'elle soit, parce que je dois être utile et je dois être au service des concitoyens qui m'ont choisi.
On passe à un autre sujet. Renaud Calva, vous êtes notre invité ce soir sur Radio Aviva. Je voudrais qu'on revienne sur la gratuité des transports à Montpellier et dans la métropole, puisque ça fait près de 4 mois maintenant que la gratuité est installée. Quel bilan faites-vous, alors vous, de votre côté, et puis des métropolitains, des montpelliérains qui utilisent les transports?
Alors vous savez, je porte avec Michael Delafosse, Julie Fraîche, je porte fièrement ce grand projet de gratuité. Gratuité des transports. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, 4 mois après la généralisation de la gratuité, 70% des habitants de la métropole de Montpellier, 70% des habitants sont détenteurs d'un pass gratuité. On a des journées où la TAM accueille plus de 300 000 usagers dans une journée. Ça ne s'était jamais produit. Faire un bilan, il faudra le faire au bout d'un an de fonctionnement, parce que c'est très difficile de comparer mois par mois où la météo change, etc. Mais aujourd'hui, tous les indicateurs sont en hausse, ça fonctionne bien. Les citoyens, en tout cas avec lesquels j'échange, tout le monde me dit que c'est un vrai plus. C'est un plus à la fois social pour les habitants de la métropole, parce que c'est du pouvoir d'achat en plus, mais c'est aussi une autre conception des mobilités. Le fait de dire que le droit à la mobilité pour les habitants de la métropole est d'avoir une mobilité qui ne construit pas un bilan carbone catastrophique, parce que c'est ça, tout le monde se dit j'ai droit à la mobilité, mais si ce droit-là produit quelque chose de dangereux pour la communauté, on peut le remettre en question un jour. Mais là, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire. J'étais aujourd'hui avec le maire de Tours, j'ai déjeuné avec le maire de Tours, qui est un maire écologiste, qui est venu rencontrer Michael Delafosse pour justement s'inspirer de ce que nous avons fait ici sur la gratuité des transports. Donc c'est un grand projet vraiment que Michael Delafosse porte, réussi et qui va être très inspirant.
Beaucoup on craint l'autre facette de cette gratuité, vous le savez, l'absence de contrôle suffisant, d'équipe humaine, de l'insécurité galopante. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui ont pu douter il y a quelques mois et qui doutent peut-être encore?
Mais que des opposants... Je fais une différence entre ceux qui doutent de façon légitime et puis ceux qui s'opposent par principe.
Ceux qui doutent légitimement, par exemple, il ne peut rien avoir.
Aujourd'hui, nous faisons la gratuité en même temps que la réalisation de la ligne 5 du tramway. Au dernier conseil de métropole, les élus qui étaient aux responsabilités il y a 6 ans nous reprochaient la gratuité, mais étaient en responsabilité et n'avaient pas planté un seul rail sur la ligne 5 du tramway. Aujourd'hui, les travaux, vous les connaissez, certains s'en plaignent, mais ils avancent, et dans un an, la ligne 5 sera, en septembre 2025, la ligne 5 sera, le tramway sera inauguré. Donc, on réalise la ligne 5 du tramway, on a lancé les lignes de bus tram pour rejoindre les communes plus éloignées de la métropole, et nous avons mis en œuvre la première police métropolitaine des transports. Déjà 20 agents ont été recrutés. Donc je préfère, ça c'est un choix, vraiment c'est un choix citoyen et politique, je préfère avoir des policiers qui contrôlent la sûreté dans le tramway ou dans les bus, pour qu'une personne, une femme seule, puisse se sentir à l'aise dans le bus, plutôt que d'avoir un contrôleur qui vérifie simplement si votre application est à jour. Là, on a recruté des policiers qui sont assermentés et qui assurent la sûreté dans le transport. Alors, il y a encore à faire, attention, mais heureusement, tout n'est pas encore réglé. Mais c'est la première fois qu'il y a qu'on crée une police métropolitaine des transports qui, à terme, sera composée de 35 policiers.
Autre crainte, alors là pour le coup des opposants politiques, c'est les répercussions sur les budgets de cette gratuité. Vous avez présenté il y a quelques semaines un budget métropolitain. Est-ce que vous nous assurez que les choix qui seront faits sur 2024-2025 ne viendront pas mettre à mal des politiques autour de la culture, du sport, de l'économie, parce qu'il y a la gratuité des transports?
Alors, les budgets sont assez sectorisés à la métropole. Et de plus en plus, c'est le législateur qui le veut ainsi, nous avons ce qu'on appelle des recettes affectées. Pour financer le transport public, en France, la principale recette provient des grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle le versement mobilité. C'est une taxe que payent les grandes entreprises. C'est un pourcentage de leur masse salariale. Cette contribution versée par les entreprises de la métropole est en grande augmentation. C'est lié au dynamisme de la métropole. Et donc, Donc, pour vous donner deux chiffres qui sont vraiment flagrants, cette contribution rapportée en 2018-2019, j'enlève le Covid qui est un moment un peu complexe, à peu près 80 à 85 millions d'euros par an. En 2024, nous percevrons 120 millions d'euros par an de versement mobilité. Donc, plus de 35 millions, entre 35 et 40 millions d'augmentation sur 7 ans. 7 ans. La question est, avec ces 35 millions d'augmentation de recettes, ça a été un choix politique de Mickaël Delafosse, de Julie Fraîche et de la majorité et des maires de la métropole. En faisant la gratuité, c'est aussi de la redistribution de la richesse. Cette richesse-là, payée par les entreprises, elle est produite par les salariés. Elle est aussi produite par les ouvriers dans les grandes entreprises. Donc, à un moment donné, c'est aussi de la juste redistribution de la richesse produite sur le territoire.
Et tiendrez-vous sur la durée ? Alors, tiendrez-vous jusqu'en 2026 et au-delà sur cette politique-là, sans pour autant augmenter les impôts ?
Alors, je vais dire à vos auditeurs de faire un petit test, si vous êtes d'accord. Vous prenez votre application impôts.gouv.fr et vous regardez quel est l'impôt métropolitain que vous payez. Je ne sais pas si vous habitez dans la métropole.
Absolument,
Olivier.
Montpellier.
Est-ce que vous savez combien d'impôts vous payez à la métropole de Montpellier par an ?
Par an, globalement, probablement pas à ce micro. Non.
Je ne veux pas vous piéger, c'est quelque chose que les gens n'ont pas conscience de cela. Moi, je suis propriétaire d'une maison à Jacou qui fait 85 mètres carrés habitables, une zone de village, 60 mètres carrés de cour. Je paye 3 euros d'impôts par an à la métropole. Vous prenez votre taxe foncière et vous regardez la colonne intercommunalité. Le taux est à 0,01. En moyenne, les métropolitains payent quand ils sont propriétaires, parce que s'ils ne sont pas propriétaires, ils ne payent pas d'impôts métropolitains. Je ne parle pas des taxes affectées, la taxe sur les ordures ménagères ou la GEMAPI. Je parle de l'impôt métropolitain pour financer les politiques publiques que vous venez de présenter, la culture, le développement économique, le sport, les transports. La métropole de Montpellier n'est pas financée par les impôts de ses habitants. C'est un choix historique qui date il y a 25 ans, date de l'agglomération de Montpellier et de Georges Fraîche, c'est la fiscalité économique des entreprises qui, principalement, financent la métropole de Montpellier. Donc, nous n'augmenterons pas les impôts, nous ne les augmenterons pas, mais ma première ressource, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question du développement économique, c'est d'attirer des entreprises. Ces entreprises, c'est de gauche, je le dis, je l'assume, c'est pour pouvoir redistribuer de la richesse, je dois la produire. Donc, nous accueillons des entreprises parce que c'est cette fiscalité-là, que nous redistribuons ensuite avec les politiques publiques et entre autres la gratuité des transports en commun.
Parlons de politique et aussi peut-être de tempête. Ça semble tanguer entre la majorité et les Verts.
Non, je ne parlerai pas au nom du groupe municipal de Montpellier, parce que je ne suis pas élu de Montpellier, mais vous avez, à ma connaissance, 12 élus écologistes au conseil municipal de Montpellier, et 8 sont encore dans la majorité avec Mickaël Delafosse. Donc 4 ont souhaité quitter la majorité. Donc 4,
on peut pas dire que ça tangue,
4 sur 8. Ah, ça tangue. Je ne sais pas si c'est le mot. Je ne vous dirais pas que ça tangue parce que nous avons un cap. Donc en général, le bateau tangue quand il n'y a pas de cap. Donc nous, on a un cap. On sait où on va. On veut gérer la question des déchets qui est un scandale absolu. Peut-être qu'on en reparlera. Mais ce qui se passe dans cette intercommunalité depuis 25 ou 30 ans,
c'est un scandale
absolu. Parce que les déchets des habitants de Montpellier, de Jacou, de Clapiers, de Cassel ou Saint-Jean-de-Védas, on les envoie chez les autres. Parce que depuis qu'on a fermé, que la décharge de Casserie en 2019 a été fermée par le précédent président, enfin sous la mandature précédente, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais nos déchets, ils ne s'évaporent pas naturellement dans l'air comme ça. Ils ne sont pas dans les terres. On les envoie dans des décharges à ciel ouvert, dans le Tarn, Perpignan. Vous imaginez que, par chaque année, 4500 camions circulent sur la Neuf avec les déchets de nos concitoyens, avec nos déchets qu'on ne veut pas voir et qu'on envoie chez des gens plus pauvres que nous.
Comment entendez-vous régler ça ?
C'est immoral.
Comment entendez-vous régler ça ?
En faisant ce que font toutes les autres intercommunalités en Europe, en les gérant sur notre territoire. Et c'est ce que nous avons porté avec le CSR, avec René Revol, le maire de Gravel, qui assure maintenant cette responsabilité. On a un cap. Le cap, c'est d'arrêter cette gabegie environnementale d'avoir les déchets des habitants de la métropole de Montpellier dans des décharges à ciel ouvert. C'est pire que cela. Au-delà du coût, 27 millions d'euros par an, Pour, c'est très intéressant cette discussion. Le surcoût des déchets exportés des habitants de la métropole de Montpellier, c'est l'équivalent en dépenses de la gratuité des transports dans la métropole de Montpellier. Parce que nous ne savons pas gérer nos déchets depuis des années et des années dans la métropole de Montpellier, ça nous coûte aussi cher que la gratuité.
Donc vous avez un cap.
Donc
et un calendrier.
Cap, bien évidemment, le calendrier, je vous le vois, c'est le lancement du marché sur Amétis. C'est ensuite, vous connaissez la procédure, vous avez un marché public, 2 ans, puis une construction, 2 ans, et l'ouverture dans 4 ans du CSR, qui va nous permettre de mieux trier et ensuite de devenir autonome sur nos déchets. Le plus grave, c'est que l'Europe, et heureusement, l'État, et heureusement, ont décidé que d'ici 10 ans, il n'y aurait plus de décharges à ciel ouvert. Ces décharges à ciel ouvert, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la nappe phréatique, c'est une catastrophe pour l'environnement. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas à côté de chez nous qu'elle n'existe pas. Nos déchets sont dans des décharges à ciel ouvert à 200 km de chez nous. Et je m'excuse, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a souvent des politiques en disant on est localiste, on veut locavore, on veut manger les tomates et les courgettes cultivées à 100 mètres de chez nous. Mais il faut que les déchets de ces tomates et des courgettes, on les gère à 100 mètres de chez nous. On les envoie pas à 200 km chez les autres.
Plus léger, pour terminer, il nous reste 1 minute, Renaud Calva. La flamme olympique, c'est le 13 mai, ici, à Montpellier. Beaucoup de fierté pour cette ville.
Oui, beaucoup de fierté pour la ville de Montpellier, pour l'Occitanie, parce que cette flamme va arriver avec beaucoup d'espérance aussi. Elle va traverser de nombreux quartiers de Montpellier. Ça va être une grande fête. Un petit moment de joie. Le monde, c'est difficile. Hein, donc, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a beaucoup parlé de violence tout à l'heure, au début de l'entretien. Si on peut parler un peu des vraies valeurs olympiques, pas du sport business quoi, mais des vraies valeurs olympiques, du dépassement de soi, de l'esprit d'équipe, de l'amitié, de la fraternité entre les peuples, ça va faire du bien quoi.
Confirme, ça va faire du bien. Merci Renaud Calva.
Merci
Maire
à
de
vous.
Zaccou, vice-président du conseil départemental et premier vice-président de la métropole, vous étiez mon invité ce soir sur Radio Aviva. Merci beaucoup.
Merci.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.
Radio Aviva à Montpellier, Lunel et Murviel-et-Montpellier, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Je